Oui, bonjour. Donc voilà, moi je vais vous présenter un cas concret qui concerne en fait la région de Viroinval où un effondrement s'est formé sous une maison et nous avons été appelés à ce niveau-là à la fois par la région wallonne et par le propriétaire et la commune pour donner un avis sur l'origine de cet affaissement et éventuellement sur les solutions qu'on pouvait y apporter. Alors, simplement, je remets rapidement le contexte. En fait, pour vous montrer que le cas que je vais vous présenter, c'est évidemment un cas particulier, mais le karst, ça concerne finalement une zone relativement large à l'échelle de la Wallonie. Donc, comme on l'a déjà dit, c'est en gros 5 000 km² de territoires wallons qui sont concernés par des roches carbonatées. Et dans ces terrains, eh bien, on a, au cours du temps, aujourd'hui, inventorié plus de 7 000 phénomènes. Donc, ça vous donne une idée quand même de la densité des phénomènes. Il y a évidemment des zones qui sont beaucoup plus denses que d'autres. Et les phénomènes les plus impressionnants ne sont pas toujours les plus importants en termes, disons, de gestion du territoire. Alors, comment est-ce qu'on travaille et pourquoi est-ce que la mise à jour de cet inventaire est importante? Il est important parce que finalement, contrairement à d'autres phénomènes géologiques, le karst est quelque chose qui évolue à la vitesse vraiment humaine. Donc, c'est des phénomènes qui évoluent rapidement et qui obligent donc à des réactualisations rapides. On a déjà parlé assez régulièrement de l'importance des eaux. Eh bien, ici, je vous montre un petit cas qui n'est pas spécialement impressionnant en termes de taille, mais on voit clairement un alignement. Cet alignement, c'est dans la région de Verviers, eh bien, il est sur un axe de drainage et il s'est produit juste après une période importante de crue. Et effectivement, si on n'avait pas été averti par des partenaires spéléologues du coin, et si on n'avait pas pu aller relever précisément ces effondrements à ce moment-là, on aurait perdu beaucoup d'informations parce que ce qu'on constate également très régulièrement, c'est que quelque temps après la formation d'un tel effondrement, eh bien, il est remblayé sans que cette information ne soit communiquée. Et ça, c'est vraiment une perte d'information qui est assez tragique dans le cadre justement de la prévention. Ce qu'on j'essaye de mettre en avant ici, c'est que effectivement, comme on traite du milieu souterrain, on a peu de fenêtres d'observation possibles. Et donc, ce type de petits effondrements qui ne sont pas très impressionnants sont très importants pour nous. Mais donc, on doit pouvoir en avoir la connaissance et le relever. Et hélas, très souvent, ils sont remblayés avant qu'ils ne soient connus. Et donc, on perd effectivement la vision de ces différents linéaments. Autre chose, c'est qu'également, l'homme peut aussi influencer et accélérer le processus. Ici, on est dans un simple petit, une petite dépression, mais vous voyez que toutes les eaux pluviales de l'étable qui se trouve à l'arrière-plan ont été déviées dans cette dépression, qui est donc devenue une véritable perte et un chantoir. Et les effondrements que je vous ai montrés tout à l'heure sont dans l'alignement de ce phénomène-là. Donc ça vous montre un petit peu aussi qu'il y a des méthodes et des gestions qui accélèrent et qui provoquent des risques, et c'est quelque chose qu'il faudrait prendre plus en compte. Alors j'en viens au... Ah oui, donc ça, je vais passer parce que sinon je n'aurai pas le temps. Voilà, j'en viens au cas concret qu'on m'a demandé de présenter. Donc, autour de Noël de 2013, on a été appelé parce que un monsieur qui était en train de rénover une vieille maison avait perdu son marteau-piqueur en essayant d'enlever les dalles de son salon. Alors, ça peut prêter évidemment à sourire. On a été voir et donc on a essayé de répondre effectivement à une demande à ce moment-là de la commune qui avait été alertée par le propriétaire et il ne savait pas très très bien quelle était l'origine de ce problème. Et donc, ils se sont dit, on est en région karstique, on va quand même demander d'une part au SPW, mais on va aussi contacter la CWEPS pour voir ce qu'ils peuvent faire. Alors, la maison, quand on la voit de l'extérieur, ça n'a pas l'air très impressionnant. Vous avez simplement une espèce de poutre qui a été fixée sous l'entrée de la maison, parce que le trou en question dont je vais vous parler se trouve juste en dessous de l'entrée principale de la maison. Alors, on va se dire, bon, ben, c'est curieux que ça commence à bouger maintenant. Cette maison n'a pas l'air toute récente. Et effectivement, quand on regarde les vieilles cartes postales, et ici c'est une carte postale qui date vraiment du début du XXe siècle, eh bien on voit effectivement que la maison en question, elle était déjà bien présente, Et vous voyez derrière effectivement la belle paroi calcaire. On se trouve en fait ici à Nîmes, à la sortie de souterraine de l'eau noire. Et c'est la première maison par rapport à la sortie de l'eau noire et la grotte du pont d'Avignon. Alors géologiquement, on a la chance de bénéficier de la nouvelle carte géologique à cet endroit-là. Et on se rend compte que l'effondrement se situe exactement au contact entre deux roches de nature différente, entre finalement les calcaires de Fromelin et les schistes de Nîmes. Et comme assez souvent, effectivement, ces zones de contact sont des zones qui posent particulièrement problème parce qu'elles vont pouvoir effectivement subir non seulement avec une couche qui est imperméable, plus d'infiltration à cet endroit-là, mais aussi elles vont subir des jeux différents. Alors, quand on doit étudier un effondrement comme ça, on essaye évidemment de non seulement regarder le trou lui-même, mais de voir s'il n'y a pas d'autres indices autour qui pourraient nous renseigner sur l'étendue du problème ou sur son origine. Et quand on regarde un petit peu autour de la maison en question, eh bien, on se rend compte que, contrairement au trou qu'on a étudié, eh bien, à l'arrière de la maison, on a déjà ceci également. Donc c'est simplement dans le salon, le monsieur a dégagé en fait une sorte de cache et il est tombé sur la roche en place avec effectivement une fissure ouverte qui dégageait pas mal d'air et qui soufflait donc de l'air. Et on a effectivement là quelque chose qui est à la limite du pénétrable humainement. Vous avez à l'arrière de la maison, la photo du haut, un espèce de mur et ce mur de soutènement en fait soutient toute la paroi et toute la voûte, et on voit que ce mur est fissuré sur toute sa longueur, ce qui prouve que le système a également bougé. Et enfin, juste en bordure de l'eau noire, eh bien, vous avez le jardin de la maison, mais donc là on se trouve à plus de 15 mètres de l'effondrement en tant que tel, et on voit que le sol du jardin a également est fissuré sur toute sa longueur et que l'ensemble a donc bougé. Ce que j'essaie de vous montrer ici, c'est que à partir d'un cas bien concret, d'un petit trou qui n'est pas très très grand, eh bien on se rend compte que la zone autour est nettement plus, enfin la zone touchée autour est nettement plus large. Voilà. Alors, il se fait que à proximité donc de ce trou, eh bien on a effectivement la grotte du pont d'Avignon, donc que nous avons pu visiter à cette occasion-là également. Et c'est intéressant parce que on a là effectivement la possibilité de relever effectivement la nature de la roche, l'épandage, et on se rend compte effectivement que dans la grotte, il n'y a pas tellement longtemps, une nouvelle salle très vaste a été découverte par les spéléologues avec lesquels on travaille très généralement sur ce genre de cas, et qui prouve effectivement qu'on peut avoir une salle qui fait plus de 6 mètres de haut, qui a été découverte récemment, et qui montre aussi donc qu'on peut avoir des vides importants qui se sont formés dans la zone. Historiquement, dans nos riches archives photographiques, eh bien, j'avais trouvé effectivement qu'en 2002, quand on était allé à l'eau noire, eh bien, il y avait eu déjà un premier affaissement vraiment en bordure de la résurgence ici. Et ça vous montre bien donc que l'ensemble du phénomène bouge pas mal. Alors, quand on rentre dans le trou, parce que c'est quand même ce qu'on a fait, donc on est descendu dans cette petite dépression qui n'est pas énorme, le trou n'était pas très très large, mais bon, on est quand même passé. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate en fait qu'au plafond, c'est la photo du bas, on a en fait les grilles et on a le dallage qui correspond finalement au trottoir. Donc on est vraiment sous la voirie et sous le trottoir, et il est évident que ce trou serait remonté comme un fontis jusqu'à la surface s'il n'y avait pas eu ce dallage et cette grille qui retient finalement de manière presque artificielle le sol. On voit aussi que dans la cavité, eh bien, on a effectivement un niveau d'eau qui fluctue un petit peu. Alors on s'est demandé, est-ce que c'est simplement de l'eau qui s'est accumulée là, ou bien est-ce que ça correspond effectivement à un niveau similaire à celui de l'eau noire toute proche. C'était une des questions qu'on a essayé de relever. On est sur l'autre banc, donc la première partie, vous avez du calcaire, et là, c'est le fond vers la maison, on voit qu'on est sur les schistes. Donc, on a fait, en fait, une topographie générale du site, parce qu'on voulait non seulement pouvoir caractériser et quantifier la taille de la dépression, mais aussi avoir justement une réponse par rapport à ce niveau d'eau. Donc ça, c'est la petite topographie qu'on a fait à ce moment-là. Vous voyez que ce n'est pas gigantesque comme trou, ça fait 2 mètres de large sur 1,43 m de profondeur, mais c'est vraiment sous la maison et ça suffit évidemment amplement pour totalement déstabiliser et détruire la maison. On se rend compte en faisant la mesure que, effectivement, le niveau d'eau qu'on a dans la cavité correspond exactement à celui de l'eau noire qui est à côté, et que donc on est vraiment dans une zone de battement et de fluctuation de la nappe, et qu'il est évident que les jeux de cette nappe et cette fluctuation ont accéléré le processus et ont facilité le soutirage. Alors, en conclusion, on se rend compte que le vide qu'on a constaté là est relativement important, qui n'est pas encore stabilisé, c'est-à-dire que ses parois sont tout à fait verticales et qu'en principe, il devrait s'étendre, qu'il tient comme ça simplement à cause du dallage qu'on a au-dessus, que la fluctuation du niveau de la nappe a très certainement pu favoriser son approfondissement par soutirage, que le comblement de ce vide nous semble être une solution relativement temporaire s'il n'est pas fait de manière intelligente avec un ancrage des fondations de la maison sur la roche en place saine, que l'affaissement concerne évidemment un bien privé mais aussi l'espace public et peut-être certaines maisons voisines comme on a pu le montrer vu l'extension de la zone, et que la nature karstique de cet effondrement semble évidente et que donc un recours possible aux assurances catastrophes naturelles mériterait d'être envisagé. Voilà.